Je vous propose de considérer avec moi l'Église que Jésus a bâtie, telle qu'elle vivait avant que ne s'achève le premier siècle de notre ère. La raison qui m'a poussé à choisir ce thème, c'est l'indifférence et l'ignorance que je constate autour de moi concernant les origines du peuple chrétien, car c'est bien de cela qu'il s'agit. N'est-il pas hautement important de savoir comment et quand l'Église a été fondée, comment elle vivait et priait au temps des apôtres? Ne serait-ce que pour faire une comparaison entre l'Église d'alors et toutes celles d'aujourd'hui. Toute la Bible est pétrie de ce sujet. L'Église, on la devine comme par transparence dans les prophéties de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, elle est d'abord l'objet d'une promesse de Jésus, « Je bâtirai mon Église ». Elle est ensuite abondamment présente dans les lettres des apôtres, comme l'atteste cette exclamation de l'apôtre Paul, « Toutes les églises de Christ vous saluent ». Eh bien, c'est toute la période qui sépare la promesse du Christ de cette exclamation que nous voulons examiner aujourd'hui. Quelles sont ces églises de Christ dont parle l'apôtre avec tant d'enthousiasme? Quelle est cette église que le Christ promet de bâtir? Sa question vaut bien qu'on s'y attarde, je vous l'assure. Mais disons-le tout de suite, notre seule source d'information sur ces questions est le Nouveau Testament, et en particulier le livre des Actes des Apôtres, que l'on connaît trop mal. J'ouvre ici une parenthèse pour vous signaler que, sur simple demande, nous vous ferons parvenir gratuitement une très belle brochure grand format de 50 pages sur les Actes des Apôtres. Dès le second chapitre de ce livre, nous assistons à la naissance de l'Église. Animés du souffle de Dieu, les apôtres s'adressent aux habitants de Jérusalem et à tous les pèlerins qui sont là à l'occasion de la grande fête juive de la Pentecôte. Aucun juif n'avait jamais entendu semblable discours. Il était question du Messie tant attendu, et que l'on attendait d'ailleurs encore, mais que ces hommes affirmaient être déjà venus. Était-ce possible? Comme preuve, ils citaient les Écritures et affirmaient être tous témoins de la résurrection de ce Jésus qui avait été exécuté à peine 2 mois auparavant. En conclusion, ils entendent cette déclaration extraordinaire « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Voici ce que dit la Bible pour décrire ce qui se passa ensuite. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Le chapitre se termine sur ces mots, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » En quelques paragraphes, nous venons d'assister à la naissance de l'Église que le Christ avait promis de bâtir. Nous avons en même temps un aperçu assez précis de la nature profonde de cette Église. Aujourd'hui, lorsque nous parlons d'Église, c'est surtout pour désigner l'édifice. À l'origine, l'Église désignait exclusivement le peuple de Dieu, l'assemblée, la communauté. Cette communauté avait ceci de spécial, c'est qu'elle comprenait des hommes et des femmes qui professaient tous la même foi en Christ et qui s'étaient repentis et fait baptiser en son nom pour obtenir le pardon de leurs péchés. Certes, Jésus était mort pour tous les hommes et son sang versé une fois pour toutes demeurera un capital disponible pour tous ceux qui voudront l'accepter pour leur purification. Mais seuls ceux qui se convertissent font partie de ce peuple de Dieu. Et le Seigneur ajoute à l'Église tous ceux qui sont sauvés. À cet égard, les apôtres nous expliquent clairement que ce salut commence par le pardon des péchés. Les lettres aux Églises contenues dans le Nouveau Testament insistent beaucoup sur cet aspect exclusif et précieux de l'Église. D'une part, parce qu'il était dans le projet de Dieu depuis toujours de se former un peuple de parmi tous les peuples. D'autre part, parce que la constitution de ce peuple spécial a coûté le sang du Christ. Christ a aimé l'Église, dit l'apôtre Paul, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Il se l'est acquise par son propre sang. Ne voudriez-vous pas qu'il vous ajoute vous aussi à son Église ? Je suis le bon berger, avait dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et pour signifier que non seulement les Juifs, mais aussi tous les autres peuples étaient embrassés dans son amour, il ajoute « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Concernant le chef de l'Église, il apparaît nettement dans les Écritures que Christ était ce chef suprême. La notion de représentant de Christ sur terre, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, est étrangère à la première communauté chrétienne. Les apôtres partageaient la même responsabilité et jouissaient des mêmes prérogatives. Dans sa vision, l'apôtre Jean voit la ville céleste reposant sur 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres. Certains parmi eux, cependant, semblaient exercer un surcroît d'influence. Ainsi Jacques, Pierre et Jean. L'apôtre Paul les appelle des colonnes dans l'Église. Cependant, la notion d'un seul apôtre, prince des autres apôtres et chef terrestre de l'Église n'existe pas dans les Écritures. Les tâches sont partagées. Ainsi, l'apôtre Paul déclare que Dieu lui a confié l'évangélisation du monde païen, comme il a confié à Pierre l'évangélisation des Juifs. Et pour montrer qu'il a autant d'autorité que les autres apôtres, il n'hésite pas à réprimander Pierre en public, en des termes les plus sévères, lorsqu'il surprend ce dernier agissant avec hypocrisie et par faiblesse de conviction. Il faudra attendre plusieurs siècles pour que se forme définitivement la notion d'un pape évêque universel. Mais c'est la communauté du premier siècle qui retient toute notre attention pour le moment. Voyons à présent en quoi consistait son culte. Nous venons de lire que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà résumé succinctement les divers éléments du culte de l'Église sous la direction des apôtres. Ce culte ne nous apparaît pas comme étant minuté par une liturgie longue et compliquée, mais comme étant spontané. Peut-être du fait que les premières assemblées se réunissaient souvent dans des maisons privées. Toutefois, cela n'empêchait pas que tout se fit avec bienséance et avec ordre. Examinons les principaux éléments du culte. Dès l'origine, un jour particulier est mis à part pour la célébration du culte. C'est le dimanche, premier jour de la semaine. Justin Martyr, qui se convertit au début du second siècle, explique la raison du choix de ce jour. Parce que c'est le jour auquel Dieu commença de créer le monde. Que c'est ce même jour que Jésus-Christ, notre Sauveur, est ressuscité et qu'il est apparu à ses apôtres. Pour les premiers chrétiens, le dimanche était donc avant tout la fête de la résurrection. L'Église du Christ était également une Église priante et chantante. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, écrit l'apôtre Paul, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur. Toute l'assemblée participe activement et intelligemment. On ne distingue pas d'officiants consacrés comme dans l'ancien culte mosaïque, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Au contraire, les apôtres avaient enseigné que tout chrétien peut, pour sa part, au moyen de la médiation de Christ, accéder auprès de Dieu et lui rendre un culte personnel. La prédication, la lecture ou l'enseignement de la parole occupaient évidemment une place importante dans le culte. Il semble aussi qu'une collecte en faveur des chrétiens nécessiteux était faite régulièrement chaque semaine. L'apôtre Paul donne à cet égard de nombreux encouragements à la générosité. Mais sans aucun conteste, le centre, la raison d'être de ces assemblées dominicales était la Sainte Cène. Jésus l'avait instituée la veille de sa mort, en recommandant « Faites ceci en mémoire de moi ». Plus tard, aux chrétiens de Corinthe qui avaient perdu de vue le sens profond de ce repas, Paul dut rappeler « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Double signification, souvenir du sacrifice du Fils de Dieu et bienheureuse espérance, anticipation même de son retour. Voilà brièvement comment se présentait au premier siècle l'Église que Jésus avait bâtie. On a coutume de la désigner par le terme l'Église primitive. Cette expression a une résonance malheureuse. Un peu comme si l'on disait l'Église préhistorique. Elle sous-entend chez certains qu'il fallait bien qu'elle sorte de ce primitivisme pour se développer, s'améliorer, se moderniser. Était-elle donc si imparfaite? N'était-elle qu'un embryon d'Église? Avons-nous gagné quoi que ce soit à vouloir la changer, la transformer? Au contraire, nous avons perdu sa pureté doctrinale, la spontanéité de sa foi, l'ardeur de son espérance. Par nos manipulations, nous l'avons divisée et défigurée. Si les hommes avaient continué de respecter scrupuleusement les saintes Écritures, l'enseignement des apôtres, notre christianisme ne serait pas émietté comme il l'est aujourd'hui. Les hommes ont semé leurs traditions. Ils ont aimé et imposé leurs opinions. Ils ont établi des dogmes et enseigné des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ils ont rédigé des articles de foi et des credos qui sont devenus leurs lois suprêmes. Dans leur égarement, ils ont même parfois interdit la lecture de la Bible et tué ceux qui passaient outre cette interdiction. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Le sombre pressentiment de l'apôtre Paul se justifie pleinement. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alors, aujourd'hui, on essaie de lui refaire un visage à cette Église, de la remanier à nouveau, car on comprend qu'on ne peut être allé trop loin. Mais combien de changements apportera-t-on encore? Et pendant combien de temps? Aura-t-on par ailleurs le courage de changer, d'éliminer, de condamner ou de modifier tout ce qui doit l'être? Sur ces questions, les plus optimistes restent pessimistes. Cependant, une chose demeure certaine, c'est que l'Église que Jésus a bâtie, telle que nous venons de l'évoquer dans ses premières années, peut encore vivre aujourd'hui, comme le démontrent les milliers d'assemblées répandues dans le monde et qui portent pour la plupart le nom d'Église du Christ. Nombreux sont ceux qui ont compris que la solution ne consiste pas à réformer de vieilles traditions moyenâgeuses, mais à restaurer l'Église que Jésus, à restaurer l'Église de Jésus telle qu'elle vit dans les pages de l'Évangile. Connaître la nature de l'Église, c'est savoir où elle est. Les apôtres ne sont plus, mais le message qu'ils nous lèguent dans le Nouveau Testament est plus qu'une présence. Ils ont parlé une fois pour toutes. Il nous appartient de recevoir leurs paroles issues de l'Esprit Saint. Il nous appartient de persévérer dans cet évangile par lequel vous êtes sauvés, dit l'apôtre Paul, à condition que vous le reteniez tel qu'il vous a été annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Le message de la Bible produit une foi saine, vraie et vivante. Il exhorte à la repentance et au baptême pour la rémission des péchés. Ceux qui suivront cette voie, et cette voie seulement, seront fécondés par la même semence que celle qui régénérait le cœur des premiers chrétiens. Leurs péchés seront pardonnés, et le Seigneur les ajoutera à son Église.